Vous le savez, demain, c'est la veille de Noël, et puis dans une semaine, on change d'année sur le calendrier, et donc les conversations de cette semaine avec Daniel Habert sont consacrées à un bilan de l'année 2024 en termes, bien sûr, de géopolitique au Moyen-Orient.
Daniel Habert, bonjour.
Bonjour Blaise, bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka pour nos traditionnelles conversations. Nous arrivons dans la fin de cette année. Nos deux dernières conversations, Daniel, de cette année, elles seront consacrées à des bilans, au bilan de géopolitique mondiale. Mais cette semaine, on va principalement se consacrer au bilan du Moyen-Orient. C'est maintenant un an et demi, quasi de guerre depuis le 7 octobre 2023 pour Israël. Alors, Daniel, quel bilan peut-on tirer de ces un an et demi de guerre?
Alors cette année 2024 a été pour Israël une année tout à fait incroyable, étrange, tragique. En fait, elle a commencé le 7 octobre cette année 2024 et elle s'est finie plus tôt le 4 novembre avec l'élection de Trump. Hein, on va la décaler, ça arrive souvent. Hein, l'année d'Israël, c'est 7 octobre, 4 novembre, 13 mois. 4 novembre, l'élection de Trump. Alors cette année, elle a été une année donc terrible. Le bilan, c'est que jamais Israël n'a mené une guerre aussi longue, aussi difficile, aussi multifront, hein, comme on l'a dit à plusieurs reprises, aussi tragique aussi, mais au fond, si on regarde bien, n'a jamais obtenu une victoire aussi décisive. Et quand le Premier ministre parlait de changement de la carte du Moyen-Orient, on peut dire que oui, la carte du Moyen-Orient, à l'issue de cette année 2024, elle a beaucoup changé. Alors cette année, je le rappelle, elle s'est divisée en deux. Les 6 premiers mois ont été une année où Israël a subi. Je rappelle qu'elle a subi donc évidemment le traumatisme du 7 octobre, mais surtout que cette guerre de Gaza, qui a occupé les premiers mois, était une année où il fallait à la fois, enfin, était une période où il fallait à la fois entrer dans Gaza, minimiser les pertes de nos soldats. Alors, malgré le nombre élevé, il y a plus de 1 000 soldats tués. C'est un nombre extraordinairement bas pour une guerre, quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, par exemple, ça n'a rien à voir. Il fallait minimiser les dommages collatéraux, ça a été, je crois, obtenu. Il fallait briser totalement l'organisation du Hamas et le rendre inopérant. Et il fallait récupérer les otages. Donc, à part la récupération des otages, et encore, en novembre l'an dernier, on a récupéré presque la moitié. Et donc, on peut espérer que dans les jours qui viennent, d'autres sont récupérés. Tous les autres objectifs ont été atteints. Donc, c'est une victoire au moins sur Gaza, mais je rappelle aussi que pendant que Israël menait cette guerre militaire, elle avait à subir une guerre médiatique qu'elle a un petit peu perdue. Pourquoi elle l'a perdue? C'est parce que le monde entier, au fond, s'est ligué contre Israël, y compris dans notre propre camp, le camp occidental. Et je crois que le summum de cette catastrophe médiatique a été ces plaintes auprès des cours internationales de justice avec le terme de génocide et cours pénales avec un mandat d'arrêt lancé contre les dirigeants d'Israël. C'est tout le sud global, hein, 75% des pays qui sont ligués, mais aussi les organisations internationales, publiques ou privées, et puis beaucoup de segments de l'opinion occidentale, évidemment islamo-gauchiste ou wokiste, mais ça fait beaucoup de monde. Et donc le résultat, ça a été une sorte de criminalisation d'Israël alors qu'elle faisait tous ses efforts pour limiter les dégâts. Et donc une grande tristesse, non seulement en Israël, mais l'ensemble du peuple juif. Ce qu'on peut quand même retenir, c'est qu'à partir du 1er avril, dans la deuxième période de cette année 2024, Israël a repris l'initiative et l'a plus jamais lâché. Elle l'a plus jamais lâché. Et donc, elle a, si on fait le bilan, brisé les organisations du Hamas et celles du Hezbollah. Elle a contenu toutes les milices. Et ce sont des milices extrêmement entraînées, bien armées, extrêmement dangereuses, qui sont soit en Judée-Samarie, soit en Syrie, soit en Irak. Et elle a surtout réussi à montrer au monde que c'était l'Iran qui était derrière et que cette année, c'était une guerre contre l'Iran, la première guerre d'Israël contre l'Iran, une guerre que l'Iran mène contre tout l'Occident. Et que bon, Israël a dévoilé le machiavélisme iranien et surtout par ses réponses militaires a réussi à mettre à nu tout le système de défense de l'Iran, et on sait que l'Iran est en grande difficulté. Et voilà un bilan, et à part les otages qui restent, mais qui sont peut-être réglés dans les prochains jours, peut-être avant le 20 janvier. Le bilan est à la fois douloureux, mais quand même positif. Il faut quand même retenir qu'au fond, moi j'ai envie de dire, Israël a gagné la guerre, a gagné les guerres qu'on lui a menées.
Alors, vous évoquiez le mois de novembre et l'élection du président américain Donald Trump. Que cela a-t-il changé dans cette géopolitique au Moyen-Orient?
On voit bien que ça a tout changé. À partir du moment où il a élu, immédiatement, toutes les parties en cause, y compris les grandes puissances, Chine et Russie, ont compris que les choses allaient changer. Et donc, il y a eu comme au fond une sidération, un arrêt, hein, un arrêt un petit peu de tout. La preuve, c'est qu'on a pu conclure une pause au nord avec le Hezbollah, aux conditions d'Israël, ce qui est assez rare. Il y a eu la chute de la maison Assad. C'est majeur, et c'est un des grands bouleversements du Moyen-Orient, et tout ça s'est fait parce que cette période de transition présidentielle était en même temps cette période de transition militaire. Et donc c'est la fin de ce que Bibi appelait l'axe de la malédiction au nord d'Israël. C'est vraiment on redessine la carte ici. Et donc oui, on est dans une phase où au fond tous les boucliers de l'Iran sont en train de rendre l'âme. Le Hamas va rendre les otages, je pense, dans les semaines qui viennent. Donc, on sera face à face avec l'Iran. Et ce face à face avec l'Iran, c'est Israël, mais pas tout seul, c'est avec les États-Unis.
Justement, 2025 approche. Quelles sont les perspectives pour cette année 2025? On parle de plus en plus d'un accord de libération des otages et d'un cessez-le-feu à Gaza. C'est la première chose qui va arriver.
Au fond, l'espoir de Trump, c'est que tout ça arrive avant qu'il arrive, que ce soit derrière lui. Lui, il dit, je négocie qu'avec des États. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Le Hamas, c'est pas un État. Le seul État, c'est l'Iran. Et donc, c'est avec l'Iran que Israël et les États-Unis ensemble vont être face à face. Et là, on voit bien que les objectifs des deux ne sont pas les mêmes, hein. Israël rêve de détruire les sites nucléaires, et Trump, lui, préférerait un accord durable, quitte à laisser un Iran au seuil, pays du seuil nucléaire, et gérer ça, comment dire, sous forme de traité. Je pense que l'idée de Trump, c'est de négocier d'un côté avec la Russie, de l'autre côté avec le Moyen-Orient, peut-être aussi gérer sa relation avec la Chine, mais ces trois gestions vont se trouver mêlées. Et je crois que la perspective de 2005, c'est qu'on va voir le théâtre russe, le théâtre moyen-oriental et l'ensemble du théâtre mondial autour de la confrontation États-Unis-Chine se mélanger. C'est tout l'ordre mondial, en fait, qui doit être renégocié pendant cette 2025. C'est pas sûr que Trump, qui est pragmatique, qui n'aime pas les grandes visions, les complètement assimilé, mais on a l'impression, disent les commentateurs, qu'il écoute davantage. C'est pas un imbécile, donc il peut comprendre ça. Et donc les perspectives, elles sont avec beaucoup de points d'interrogation. Je crois que le plus probable, c'est qu'on trouvera des accords partiels, temporaires, pas de solution définitive, parce que la solution définitive, la paix durable dans le monde, elle ne se fera que si un ordre nouveau et négocier, et ça va prendre peut-être plusieurs années.
Daniel Haber, merci beaucoup pour cette analyse de l'année 2024 au Moyen-Orient. On se retrouve lundi prochain pour un bilan un peu plus global de la géopolitique mondiale. Merci et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.